Chapitre 10, les contraceptions, avec une petite blagounette, les cons, entre conception, vous voyez, on a mis tra dedans, ça fait un petit genou.
Ou les capotes sont cuites.
Très bon, mon ami. Puisqu'on parle d'enfants, parlons procréation. Causons de la grossesse, de son interruption volontaire ou non, de la procréation médicalement assistée, de tout ce qui risque les conservateurs, souvent des hommes qui réagissent les questions sexuelles, notamment féminines. Si tu me permets, c'est bien un drame de voir que dans les couples, comme dans l'éducation sexuelle à l'école, une grande part des questions de contraception est déléguée plus volontiers aux filles qu'aux garçons. Pourtant, ça les concerne tout autant. Dans une majorité de couples hétéros, ce sont les femmes qui gèrent la contraception et la payent.
Ce bon vieux système patriarcal.
Ah bon, n'exagérons rien.
Bah, je n'exagère pas. Tiens un exemple. Tu me parles comme un garçon par comédité de langage. C'est assez sexiste. Même si c'est dur à lire, je trouve ça extrêmement sexiste.
Tu veux dire que t'es pas un garçon?
Ben non, tu m'as même pas demandé.
C'est vrai, ça alors.
En réalité, je m'en fous. Car je trouve ça aussi peu important d'être une femme ou un homme que d'être noir ou blanc. Mm-hmm. Mais effectivement, je suis une femme.
Ok. Je t'ai mégenré, pardonne-moi alors. Je m'exclame parce que figure-toi, moi aussi je suis une femme. Ah, qu'est-ce que tu réponds à ça? On m'a masculinisé par principe, on a tout masculinisé dans le bouquin. C'est parfaitement idiot, on a très bien pu être une femme. On peut être... Mais j'ai tout de même essayé de dire infirmier au lieu d'infirmière.
T'as vu, c'est juste. Mais tu n'as pas dit docteur au lieu de docteur.
Ouais, mais écrit surtout. Ça s'entend pas quoi. Le principe en français, c'est le même qu'en santé. La norme est l'homme blanc qui plus est. Tiens, pour la peine, on va inverser la tendance si tu veux. On va essayer de féminiser tout le reste, ça te dit?
Ça va faire tout drôle. Ça va saouler les gens.
Ouais, mais au moins féminiser les termes et le temps du chapitre, inverser la norme, faire qu'au pluriel le féminin l'emporte sur le masculin pour voir ce que ça nous fait. Chaque fois que ça fera tiquer, nous, quand on le dit, et les lectrices quand elles le lisent, ça sera autant d'occasion d'admettre qu'on n'aurait pas tiqué dans l'autre sens si ça avait été masculinisé, tu vois.
Allez, on essaye, ça me va. Le temps d'un chapitre.
Et ça rendra visible un fait qu'on oublie souvent. Si on se rend dans un hôpital, on y croisera beaucoup plus de femmes que d'hommes, que ce soit comme professionnelles ou comme patientes. Les femmes, on le méconnaît, vont plus souvent à l'hôpital que les hommes.
Alors reprends ce que tu disais sur la contraception.
Bah déjà, levons nos mains en l'air et remercions chaleureusement les artisans de la légalisation et de la contraception. De la légalisation de la contraception. En 1967 et avant, en France, la fécondité, c'était un peu la grâce de Dieu, quoi. Si tu fais l'amour avec ton mari ou avec un inconnu, sans ton consentement parfois, alors tu peux tomber enceinte, être en cloque, avoir quatre oreilles, avoir passé commande, avoir une espérance, bonjour l'espérance quand c'est pas désiré, avoir les petits pieds qui poussent les grands.
Ça va, j'ai compris.
Bon, ce cadeau du ciel, entre guillemets, est dramatique pour une femme qui ne souhaite pas d'enfant ou pour des foyers trop pauvres. Aussi, toutes les méthodes d'avortement possibles et imaginables se développent avec des conséquences désastreuses sur le plan de la santé. À la fin des années 60, les mouvements des plannings familiaux portent aux législateurs les plaintes douloureuses des mères contre leur gré, et c'est le Stéphanois Lucien Neuwirth qui fait passer cette loi au général de Gaulle, pourtant catholique conservateur, tout comme Neuwirth d'ailleurs. Depuis 67 donc, en fait, en réalité 1972, tant les blocages de l'administration furent importants, les femmes peuvent prendre une contraception. Attention, il faut quand même l'accord du mari, s'il y en a un... Ouais. Ensuite, elle n'est pas prise en charge par l'assurance maladie. Ça sera le cas qu'en 1974.
Et aujourd'hui?
Et bien aujourd'hui, il y a des choses qui restent quand même très, très bizarres. Bon, je t'explique. Okay. Tu peux avoir trois grands types de contraception. Je ne vais pas te faire un cours, mais quand je vois la nullité générale des jeunes sur la question, surtout des mecs, ça a le don de m'énerver. Alors, je commence par les contraceptions comportementales ou de planification familiale dite naturelle, entre guillemets, si j'ose dire, sous-entendu sans chimie de synthèse, qui repose sur des façons de faire ou des observations sur soi. Facile, gratuite, mais pas tout égal, quoi. La première, bien sûr, est l'abstinence. Tu fais rien, donc à moins d'être victime d'une immaculée conception, aucune chance de tomber enceinte.
Oui, mais j'ai pas m'ennuyé un peu.
Ok, bon, dans ce cas, tu as les pratiques non vaginales. Un certain nombre de jeunes filles optent pour des rapports oraux ou anaux pour éviter non seulement le déchirement de l'hymen, mais aussi pour éviter une grossesse précoce.
Donc, elle reste vierge malgré moult sodomies, fellations et autres tripotages mutuels.
Et oui, et ça montre à quel point la notion de virginité est douteuse. Et il y a aussi le fameux coït interrompu. Oublie ça, ça marche pas. Une fois sur 4 ou 5, tu peux te retrouver enceinte, taux d'échec de 15 à 28%.
Ah oui, la fameuse petite goutte.
Ah, très précisément, goutte de liquide pré-éjaculatoire dite fluide de Cowper, du nom d'un médecin anglais du 18e siècle. Alors, je passe maintenant aux méthodes comportementales basées sur le cycle menstruel. La méthode Billings, la méthode symptothermique et celle des calendriers de Ogino Knaus. Bon, je ne vais pas écrire un traité, je te fais je taille en grossièrement. Hein. Billings, c'est le nom de ce couple, Evelyn et John, qui a proposé l'identification des périodes de fertilité par le suivi direct de l'état de la glaire cervicale. Okay. En gros, tu tâtes la glaire qui émane non pas de ton cou ignare, mais de ton col de l'utérus. Cervical, ça vient de col.
Okay.
Pendant la période de fécondité, la glaire cervicale change de composition. La méthode est facilement accessible, même si tu es illettré. T'es illettré?
Bah non, sinon comment tu voudrais que je te lise?
Ah oui, bien observé, c'est vrai. 4 femmes sur 5 parviennent à identifier leur pic de fécondité dès le premier cycle, après avoir suivi la formation nécessaire que tu peux recevoir au planning familial le plus proche de chez toi. Si au moment où tu lis ces lignes, on ne les a pas tous fermés faute de moyens.
Mais c'est quoi le panier familial ?
Bah, c'est l'une des 69 associations regroupées en 20 fédérations et même confédérées depuis le mouvement français pour le planning familial qui existe depuis 1960. Ses objectifs, bah, l'éducation sexuelle, la lutte pour le droit à la contraception, à l'avortement et le contrôle des naissances en général dans une optique féministe. Vérifie, il y a sûrement une antenne dans ta ville ou pas très loin, à Grenoble, il y en a une par exemple. Ce mouvement s'est monté à partir d'une autre association qui s'appelait la Maternité Heureuse, qui à la fin des années 50 se préoccupe des mères malheureuses et revendique pour chaque couple et chaque femme le droit de contrôler les naissances. Car la loi de 1920, alors en vigueur, interdit et réprime sévèrement la contraception et l'avortement. Et sache qu'en 67, et la loi ne vient.
Donc la Maternité Heureuse et le planning sont clandestines au début.
Alors clandestines, je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais en tout cas illégales. Okay. Il aura vraiment fallu du courage aux pionnières comme Marie-Andrée Lagroix-Veille-Hallé ou Pierre Simon.
Et les 12 autres méthodes comportementales basées sur le cycle menstruel ?
Eh ben, pour la symptothermie, tu ajoutes un paramètre de température corporelle à la méthode Billings, t'attends ta guerre cervicale, et tu peux arriver, moyennant une formation préalable, à avoir une méthode assez fiable. Okay. Quant à Kyosaku Ogino, lui, il est connu pour avoir trouvé la loi physiologique qui porte son nom, et par laquelle, selon laquelle chez la femme, la libération de l'ovule par l'ovaire se produit d'habitude une seule fois au cours du cycle menstruel, entre le 12e et le 16e jour après le début de la menstruation. Bon, c'était en 1924, mais il y a eu un gynécologue autrichien du nom Knaus qui a essayé d'en tirer une méthode de contraception qu'on appelait la méthode du calendrier, ou méthode Ogino-Knaus. Alors, deux détails étonnants. D'abord, cette méthode a été encensée par le pape Pie XII dans son discours devant l'Association catholique italienne des sages-femmes le 29 octobre 51. Je trouve ça marrant. Mmh. Ensuite, Ogino s'est lui-même opposé à cette méthode association nom, soutenant que le taux d'échec était trop élevé et que des méthodes contraceptives autres étaient disponibles et plus efficaces.
Oh, il manquait pas de classe, cet Ogino.
Ouais, il a revenu sur ce qu'il a dit, quoi.
Ok, donc ça marchait donc pas.
Non, c'est le moins qu'on puisse dire. La probabilité de grossesse non désirée est assez élevée. L'indice de Pearl est de 9%, à tel point qu'il y a une génération de gens qu'on appelle des bébés Ogino.
Ok, mais c'est quoi l'indice de Pearl ?
Ah, c'est pas le plus passionnant, t'es sûr que... Bon, ouais, ok, je t'explique. Ouais. Pour mesurer l'efficacité des méthodes de contraception, le biologiste Raymond Pearl a inventé en 1933 un outil statistique. Il faut diviser le nombre moyen de grossesses non planifiées, les échecs de la méthode, par le nombre de mois d'utilisation d'une méthode de contraception particulière dont on veut mesurer l'efficacité, okay. Et puis on multiplie les résultats par 1200. Pourquoi 1200 ? Parce que 12 mois fois 100 pour voir les pourcentages. Et ça correspond au nombre de grossesses observées pour 100 femmes utilisant une contraception donnée sur un an. En gros, 0, bah, c'est le mur de Berlin, tu vois, ouais. Il n'y a rien qui passe. Et 1, c'est la passoire à nous.
Ok. Ouais. Mais pourquoi il est fiable cet indice ?
Ah, il pose quelques problèmes. Il part du principe que l'utilisation de la méthode est optimale et du coup, il minore les risques. Du genre, selon lui, les préservatifs ne craquent jamais, tu vois. Seulement, des fois, ça arrive. Ou bien que les oublis de pilules n'existent pas. Autre chose, il est intéressant sur une moyenne de mois, mais les risques les premiers mois sont souvent supérieurs à l'indice de Pearl. Pourquoi ? Parce que, quelle que soit la méthode, le premier mois, le manque d'expérience des gens fait que les chances d'erreur sont plus grandes. Alors, il est préférable d'utiliser ce qu'on appelle des decrement tables. Mais bon, le détail, c'est un peu technique, lâche la ferme.
Ok, mais en dehors des contraceptions comportementales, il y a quoi d'autre ?
Bah, les plus efficaces, sans conteste, ce sont les stérilisations définitives, bien sûr. Alors, je ne te fais pas de dessin, c'est facile à comprendre. Soit on te clipse les trompes, soit on te les obstrue avec un petit ressort. Soit on fait une vasectomie aux garçons, c'est bien remboursé par la Sécu à 65%, mais fais gaffe, c'est pas réversible. Enfin, ça, dans certains cas, ça peut l'être, mais oui. Bon, faut pas miser dessus. Alors la loi impose que tu sois majeur et t'impose un délai de réflexion de 4 mois entre la première consultation et sa réalisation.
En fait, c'était de cause, je vais réfléchir encore un peu si tu veux bien.
Ouais, mais alors détends-toi, il y a d'autres choix. Okay. C'est là où je voulais en venir, car la protection sociale est ou devrait être en jeu ici. D'abord, note bien que la loi te garantit la liberté de choisir ta contraception. C'est une révolution que bien des pays nous envient. Et puis nous, on mésestime la chance qu'on a d'avoir ça. Il y a d'une part les contraceptions qui demandent un produit pharmaceutique et sont remboursées en partie par la Sécu, la pilule, l'implant, l'injection, le DIU, le dispositif intra-utérin. Alors je dis pas stérilé, parce que ça génère une croyance complètement infondée sur la capacité du DIU à rendre stérile. J'aime pas le mot stérilé, voilà, j'utilise DIU.
Okay.
Et puis il y a le diaphragme aussi. Il y a d'autre part les contraceptions demandant un produit pharmaceutique mais non remboursé par la Sécu. La cape cervicale, le spermicide, certaines pilules, le préservatif, le timbre et l'anneau vaginal. Je me suis amusé à faire un tableau, mais il serait trop grand pour rentrer dans ces pages. Alors si tu mets à droite la fiabilité de chaque méthode pharmaceutique et en face tu mets son taux de remboursement,
okay.
Tu peux classer les méthodes par ordre 300, tu vois, d'efficacité. Quoi. Tu dis, bon, bah, ça marche pas trop bizarre là. Et tu t'attends, comme toute personne logique, à voir les plus efficaces mieux remboursées. Eh ben non, tu te fourres le doigt dans l'oignon.
Ouais.
Je vais te donner qu'un exemple, l'anneau vaginal.
Ouais.
Il est simple, il ne gêne pas. De toutes les méthodes contraceptives avec combinaison d'hormones, il s'agit de la méthode qui en contient moins. Okay. Effet secondaire bien moindre qu'avec les pilules. Pas de risque d'oubli, vu que tu le portes. Tu le mets le jour 1 du cycle, tu le retires le 21 pour la menstruation. Tu attends 7 jours, tu en remets un autre. Efficacité max. de l'ordre de 99,7% seulement. L'assurance maladie ne rembourse pas. Il coûte pourtant entre 20 et 25 euros par mois. La Sécu québécoise, elle le rembourse. Idem pour les patchs contraceptifs, t'en as pour 15 euros par mois. C'est aussi efficace que les pilules classiques et c'est pas remboursé, alors que les pilules, si, à 65%. Alors pourquoi cette incohérence? En attendant, la capote n'est pas remboursée non plus, tu me diras. Vous, la jeunesse, vous devriez vous emparer de ces questions et forcer la Sécu à évoluer sur le sujet.
Oui, mais ça resterait encore une histoire de fille. Et les gars, ils ne peuvent pas utiliser de contraception eux aussi? Hormis le préservatif?
Oui et non, on dit souvent qu'il y a encore peu de résultats dans la recherche de pilules pour hommes, par exemple, parce qu'il y a peu de débouchés. Entendre, peu de garçons prêts à le faire au même titre que les filles. Et que de toute façon, ce ne serait pas rentable. Alors, je n'ai pas vérifié ce point de manière précise, mais il n'est qu'une conséquence de cette inégalité, pas une cause. Il y a aussi, bien sûr, la stérilisation et la capote, d'ailleurs. En revanche, je connais une méthode naturelle, même si naturelle, ça ne veut pas dire grand-chose, hein, tu vois, spécifique pour hommes.
Ouais, tiens donc.
Je te jure que ce n'est pas moi qui ai inventé le nom. Il vient d'un collectif, le GARCOM, okay. Le groupe d'action et de recherche pour une contraception masculine. On sait que maintenir les testicules à l'intérieur du corps permet d'augmenter leur température de quelques degrés nécessaires pour stopper la production de spermatozoïdes. Si on parvient à faire remonter les glandes dans les canaux inguinaux, dans la cavité abdominale, et à les y maintenir, bah, le tour est joué.
Et comment s'appelle cette invention?
Tu vas pas me croire. RCT, okay. Pour remonte-couille toulousain. Ou contraception masculine par hyperthermie testiculaire. Il s'agit d'un slip troué, afin de laisser passer la verge et la peau du scrotum, et qui permet de faire remonter et de maintenir les testicules. On peut se le fabriquer soi-même. Je n'ai pas encore tout lu, mais je pense que ça peut marcher. En outre, c'est réversible.
Extra. Maintenant, imagine que je ne désire pas d'enfant, mais que je me suis planté avec ma pilule et que je me retrouve enceinte. Si je n'ai pas envie de me faire agresser par les anti-avortements, je vais où?
Je n'en reviens pas de voir à quel point la question de l'avortement est encore discutée de nous.
Ouais.
Et avec les États-Unis récemment. Ouais. Il faut dire que les condamnations lancées par les milieux religieux ont été lourdes de conséquences. Tu savais qu'en 1869, par exemple, le pape Pie IX a déclaré que l'avortement était un péché mortel, quelles que soient les circonstances, et que quiconque participait à un avortement s'excommuniait de l'Église catholique romaine. Ouais, comme tu dis, aujourd'hui, tu n'auras probablement pas affaire au mouvement anti-avortement qui attaquait les hôpitaux dans les années 80 et cassait le matériel, Fondation Le Jeune, tout ça. Non, la réticence ou le moralisme seront plus sournois. Ça peut venir de l'équipe médicale qui te fait une leçon de morale, ou une réflexion toute pourrie. Dans ce cas, diffuse ce qui t'est arrivé sur des sites ou des hashtags comme « paye ton gynéco » ou paye ton utérus, mais surtout préviens le planning familial qu'elle ne renvoie plus personne là-bas. Franchement, je ne connais pas meilleure interlocutrice que les personnes qui y travaillent. Elles sauront te dire qui aller voir, qui éviter, sans jamais te juger, que tu sois majeur, paumé, mineur, trans, peu importe.
Là, tu parles de mineur. Comment ça se passerait si j'étais une jeune fille, genre 14 ans?
Mais il aura fallu attendre 2001 pour que la loi Aubry t'autorise à prendre une contraception sans l'accord de tes parents, sauf la stérilisation, ce qui peut se justifier si on considère que ton expérience en tant que mineur n'est pas suffisante pour que tu puisses trancher définitivement la question d'avoir ou non un enfant. C'est toujours un peu compliqué. Ça. Donc tu peux prendre une contraception sans que tes parents le sachent, c'est l'article L5134-1 du Code de la Santé publique, te rendre dans un planning familial sans rien avoir à demander à personne, et même avorter sans que tes parents soient au courant. Mais il vaut mieux quand même essayer de leur en causer, sauf s'ils sont des parents vraiment affreux. Et puis il y a les lois qui t'aident, et de plus en plus elles t'aident. Alors d'abord l'article 5177 du Code de la Sécurité sociale qui te rend accessible gratuitement des contraceptifs que la Sécu met dans sa liste de médocs remboursables. Excellente nouvelle, depuis le 1er juillet 2016, si t'as plus de 15 ans, si tu as moins de 15 ans par contre, on considère sûrement que t'es pas en droit de faire quelque chose qui ressemble à du sexe procréatif, on te donne aussi l'accès gratuit à certains des examens médicaux préalables à la prescription de la contraception de ton choix. Dans la liste que la Sécu rembourse, t'auras donc pas le timbre, l'anneau dont on a déjà parlé, c'est bien dommage, mais on te garantit aussi des examens de biologie médicale, des actes de pause, changement ou retrait d'un contraceptif style DU, le fameux stérilé, je ne vais pas dire stérilé. Et surtout, note bien que si tu le souhaites, et c'est ton droit, ta prise en charge peut être anonyme, il faut que tu le demandes.
Ok.
N'oublie pas de le demander hein, si tu en ressens le besoin. Ainsi, elle ne sera pas mentionnée sur les relevés de remboursement de tes parents. C'est la protection du secret médical. Demande à ton médecin de te prescrire la contraception sur une ordonnance isolée et de mentionner contraception mineure dessus. On doit te garantir de créer un numéro de sécurité sociale anonyme pour que le remboursement n'apparaisse pas sur le revêt de tes parents.
Okay.
Assure-toi que ce soit bien le cas. Hein. Tu as aussi droit gratuitement à une contraception d'urgence. CU, on dit parfois. Contraception d'urgence. Délivrée en pharmacie. Et la pharmacienne est obligée de te la donner. Okay. Elle devrait même être contente car c'est un des uniques droits, cas de dérogation au sacro-saint principe de la séparation de la prescription et de la dispense. Si elle refuse sans motif médical, c'est un refus de vente et c'est grave. Elle pourrait être sanctionnée par l'ordre des pharmaciens et se voir avertie, suspendue ou même radiée si ce n'est pas la première fois. Et si elle exige tes papiers d'identité, ta carte vitale, c'est illégal. Sache-le. Et si elle te pose des questions intimes, tu n'es en rien obligé de lui répondre. Et normalement, ça ne devrait pas se passer au comptoir devant les autres clients et dans un entretien privé et anonyme. Tu peux l'exiger.
Et si la discussion part en sucette?
Bah dans ces cas-là, comme t'es pressé, fonce chercher ta CU ailleurs. Mmh. Va dans une autre pharmacie ou dans un centre de planification et d'éducation familiale, il y en a pratiquement partout. Ce sont des structures qui assurent des consultations de contraception, des actions individuelles et de collectifs de prévention portant sur la sexualité et l'éducation familiale, et des entretiens préalables à l'IVG, à TED, à préparer une vie de couple et de parente quand tu vas avoir un môme, et des livres à titre gratuit, des médicaments ou objets contraceptifs aux mineurs désirant garder le secret, ainsi qu'aux personnes ne bénéficiant pas de prestations maladie. Elles peuvent même réaliser des IVG médicamenteux jusqu'à 5 semaines de grossesse.
Ok.
Tu peux aussi demander à la fameuse CU, à ton infirmière scolaire, elle a le droit, elle aussi, de te la fournir. Sache que ton petit copain ne peut pas aller en chercher pour toi, on le refusera.
Okay.
Je ne sais pas si c'est pour éviter qu'il ne te mette éventuellement la pression, ou si c'est seulement pour respecter le fait qu'un tiers ne doit pas se mêler à ton choix. Mais bon, quoi qu'il arrive, pense ensuite à prévenir le planning familial des agissements de cette pharmacie, si elle t'a refusé. Hein, et écris un courrier pour que la pression lui soit mise. Un petit courrier à l'ordre des pharmaciens, tac, un autre à l'agence régionale de santé, tac, un dernier au procureur de la République. En fait, il faut inverser le rapport de force car l'enjeu est quand même de taille. En 2016, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a envisagé d'instaurer une clause de conscience pro-vie dans son code de déontologie, permettant ainsi de, je cite, « refuser d'effectuer un acte pharmaceutique susceptible d'attenter à la vie humaine ». Cette clause s'appliquait à la contraception, on reculerait ainsi de 50 ans dans nos droits.
C'est clair.
Tiens, j'y pense. Si t'es mineur, j'ai un autre sujet pour toi. Un petit cocktail sexe-santé-sécu qui mérite le détour.
Voilà, qui s'appelle de la lèche déguisée à la maison d'édition.
Ouais, parce que
je ne connais pas.
La maison d'édition s'appelle le détour. Alors c'est pour. Voilà. As-tu vu les panneaux publicitaires de la campagne de promotion du vaccin contre le cancer du col de l'utérus? Voilà, deux exemples venus de France et du Québec. En France, on lit « Prévention du cancer du col de l'utérus, se vacciner, c'est à 14 ans ». Et plus bas, « La gratuité de la vaccination pour les jeunes filles de 14 ans ». Cette campagne pose tout un tas de problèmes éthiques très en lien avec la sécu. Je passe sur des éléments discrets, sur les affiches du style « par amour de la vie », sous-entendu, si tu ne te vaccines pas, ouais, tu n'as pas l'amour de la vie.
Ouais. Bon, ouais.
Celle du Québec est pire encore. « Comment protéger sa fille contre les VPH ?» Et plus bas, un diptyque « vaccin ou ceinture de chasteté ?»
Bonjour, je vous dis.
Il réduit artificiellement à deux solutions à la situation, alors qu'il y en aurait plein d'autres.
Ouais.
Je parle même pas de l'image de la ceinture de chasteté qui n'a jamais existé ailleurs, je ne sais pas si tu savais ça, que dans les fantasmes médiévaux des historiens du 19e. Enfin, ça n'a pas existé.
Ok.
Ah, c'est ouf.
Mais où est le problème central là-dedans, Richard?
Premièrement, contrairement à ce qui est sous-entendu, ce n'est pas un vaccin contre le cancer, mais contre le papillomavirus humain, VPH, plus connu en fait sous le sigle anglais HPV, qui est une maladie sexuellement transmissible.
Et pourquoi ils ne le disent pas sur les affiches?
Tu penses pouvoir faire admettre à des parents qu'il faut vacciner leur charmante jeune fille pour une MST à 14 ans?
Effectivement, ça va être tendu. Mais... Et pourquoi à 14 ans?
Parce qu'il est établi que pour être pleinement efficace chez les filles en vue de la prévention du HPV, le vaccin doit être administré avant les premiers rapports sexuels. Les préconisations du Haut Conseil de la Santé publique concerneraient, par conséquent, l'âge... En vrai, on devrait prescrire 11 ans, si tu veux, ou 9 ans même dans certaines situations particulières, parce qu'à 14 ans, un certain nombre de filles ont déjà perdu leur cerise, comme on dit au Québec. C'est un des soucis. Le rapport de la société à la sexualité des enfants est hyper ambigu. Il y a une certaine fierté à évoquer avec nos copines nos expériences précoces, mais on ne le conçoit pas du tout pour nos gamines. Si tu veux. Alors je redis, c'est un vaccin contre une MST, pas contre le cancer. Néanmoins, c'est vrai que l'infection HPV augmente les risques de développer un cancer du col.
Ce serait pas chipoté un peu, ça?
Tu trouves? Tu pourrais me dire qu'en utilisant le terme cancer, on cherche à avoir un impact plus fort, à faire peur, et que c'est pour le bien des malades, donc ce petit tour de passe-passe, tu vois, il se justifie. Mais seulement, on masque le fait que c'est une MST, et que je sache, il faut être deux pour se transmettre une MST. Et on part donc du principe qu'il faut deux partenaires hétérosexuels. Donc, pourquoi pas vacciner les garçons aussi?
Non mais, sérieux, il risque pas d'attraper le cancer du col, elle est complètement stupide ta question.
Tête d'ail, c'est évident qu'il risque pas d'attraper le cancer du col, mais ma question n'est pas bête pour autant. D'abord, il existe aussi des cancers de l'anus ou de la gorge provoqués par le HPV, ce qui au passage te montre la dangerosité de l'affiche des Québécois, en suggérant uniquement des rapports sexuels par la voie vaginale avec leur ceinture de chasteté. Hein, tu vois. Ensuite, ma question faisait référence aux deux stratégies vaccinales possibles.
Ok, t'énerve pas. Explique, je suis toute oui.
D'abord, la stratégie collective. L'État cherche à éradiquer le problème en vaccinant tout le monde. Dans ce cas, la personne qui se fait vacciner ne le fait pas tant pour elle-même que pour les autres. C'est qu'il y a des vaccins obligatoires qui sont inscrits dans ton carnet de santé, contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, par exemple. Cette stratégie coûte cher à la collectivité, mais elle a l'avantage d'être équitable. Chacune prend sa part de contraintes en se vaccinant, et en échangeant, on a collectivement résolu le problème. Les gens égoïstes ont bien compris que si la couverture vaccinale d'une population est très élevée, ils risquent rien, même sans se vacciner. puisque les autres l'ont fait pour eux. Ils choisissent donc de désobéir à la loi et de ne pas faire vacciner leurs marmots, laissant aux autres finalement le soin d'assumer la couverture vaccinale. Bon, t'as bien vu le sujet pendant le Covid. Et si trop de monde fait comme ça, la couverture diminue, elle diminue tellement que le risque d'attraper le machin augmente, et de fait tu te retrouves dans le deuxième cas de figure, la stratégie individuelle.
Ce que chacune fait pour soi, ça nous fait pour tous.
Ah, pendant, sauf, mais si on fait ça, si tu veux, il nous restera plus que Mérieux pour pleurer. Bon. La stratégie individuelle donc. C'est le cas des vaccins anti-HPV. Pour te donner une idée, tu as deux vaccins possibles. Le Gardasil, 121€ par injection. Il en faut 3, remboursé à 65%. Ça fait 232€ pour la sécu. Ou le Cervarix, 109€. Il en faut 3, remboursé à 65%, soit 213€ pour la sécu.
Vu les prix, c'est un argument pour ne vacciner que les filles. Si on vaccine les mecs aussi, bonjour la facture.
C'est un argument, mais je te rétorquerai que ce n'est peut-être pas si cher payé d'éviter la stigmatisation que cela induit sur les filles, la déresponsabilisation des garçons sur ces problématiques, le risque que cela fait prendre aux garçons homosexuels. C'est une question complexe, la vaccination universelle. Je dois admettre qu'on ne peut s'en contenter de discuter de ça en 3 minutes au bout d'une table. Il y a des avantages et des inconvénients comme toujours en médecine. Ceci dit, même si on ne prend que la stratégie vaccinale actuelle, donc des jeunes filles qui le choisissent, je me demande si les dépenses effectuées sont vraiment faites à bon escient.
Explique-toi.
Dans la mesure où la Sécu prend en charge une partie des dépenses de cette stratégie individuelle, nous sommes en droit d'attendre que la vaccination serve bien aux jeunes filles qui en ont besoin. Or, les études scientifiques montrent clairement que celles les plus à risque de développer un cancer du col de l'utérus sont issues des classes sociales défavorisées, qui sont aussi les classes qui se vaccineront le moins si la stratégie est individuelle, car souvent moins éduquées aux questions de santé et consultant moins régulièrement. En tout état de cause, on rate la cible, si je veux dire.
Alors, de ce que tu dis, on est grillé à tous les niveaux, nous, les nanas. C'est à nous qu'incombe le fait de se protéger le col contre les virus qu'on nous transmet, et le reste de l'utérus contre les moutards qu'on nous enfile, qu'on nous refile.
Oui, ce sont des formes d'inégalité encore bien prégnantes, effectivement. Ça me fait rire, mais c'est pas drôle du tout.
Imaginons qu'à l'inverse, je souhaite, en fin de compte, garder le bébé, mais que la grossesse se passe mal.
Tu rentres alors dans le champ possible de l'avortement thérapeutique pudiquement et abusivement appelé interruption médicalisée de grossesse.
Et pourquoi abusivement ?
Parce que, gloire aux militants de la première heure, l'interruption volontaire de grossesse, IVG, est aussi elle est médicalisée. On fait plus ça dans les arrière-cours avec un porte-manteau tordu et un chiffon sale. Tu seras classé en IMG si la grossesse met gravement en danger ta santé ou si l'enfant à naître est atteint d'une affection particulièrement grave et incurable. C'est une équipe professionnelle qui évalue si la situation de la maman ou du bébé entre bien dans ce cadre. Quoi qu'il arrive, la mère doit recevoir une information claire et c'est elle qui décide. Donc vois-tu, l'IMG est aussi une IVG puisque la maman décide de l'interruption. Je n'entre pas dans le détail des problèmes éthiques soulevés par la participation ou non du père dans le processus de décision qui nous apporterait vers une autre discussion.
Et quand la décision est prise ?
Eh bien, l'interruption est la plupart du temps médicamenteuse. La chirurgie n'intervient vraiment qu'en dernier recours. Dans tous les cas, tu es hospitalisé et tous les soins sont pris en charge à 100% par la sécu et c'est très bien comme ça.
Ok. Si à l'inverse, je veux des enfants mais que je n'y parviens pas, la sécu couvre aussi cette éventualité ?
Ouais. La gestion de l'infertilité est prise en charge, mais sous condition. Ici aussi, tu verras qu'il y a à dire sur les différences de traitement homme-femme. Tu constateras que c'est souvent la femme qui est considérée comme la patiente, alors que dans 21% des cas, l'origine de l'infertilité du couple est masculine. 33% d'origine féminine, 39% liée à une association de facteurs homme-femme et 7% indéterminée. Donc quand un couple hétéro vient consulter, c'est fréquent que ce soit sur le dos de la femme qu'on mette tout ça, quoi. Et le poids de la responsabilité lui revient presque immanquablement. On la soupçonne direct que c'est à cause d'elle, la stérilité. Ouais. Comme autant des rois, quoi. C'était jamais le roi qui était en cause, c'est toujours la reine qui était stérile. Les solutions médicales sont très dépendantes des causes de l'infertilité, mais il existe des traitements médicaux, la stimulation ovarienne essentiellement, chirurgicaux, si la cause est opérable, comme genre un fibrome ou l'obstruction d'une trompe. En dernier recours, l'AMP ou PMA, l'assistance médicale à la procréation, qui compte essentiellement deux techniques, l'insémination artificielle intra-utérine, on dit IIU, si tu veux tout savoir, on introduit à l'aide d'une pipette des spermatozoïdes dans l'utérus, contenant des ovocytes, ou la FIV, que tu connais certainement, fécondation in vitro, on prélève ovocytes et spermatozoïdes, on les fait se rencontrer sur une paillasse de laborantin, puis on réintroduit les embryons obtenus dans l'utérus.
Tu parlais d'une prise en charge sous condition.
Ouais, parce que la Sécu prend en charge des tentatives de PMA à 100%, hors dépassement d'honoraires, fais bien gaffe à demander avant. Si la femme a moins de 43 ans, dans la limite de 6 inséminations intra-utérines et 4 FIV. Les compteurs sont remis à zéro en cas d'accouchement, c'est-à-dire que pour un deuxième enfant, tu as de nouveau droit à tes 6 inséminations et tes 4 FIV et ainsi de suite.
T'as mort de couille. Après 5 échecs, ça doit être l'angoisse. Et les taux de réussite sont bons ?
Pour les FIV, la moyenne nationale du nombre d'accouchements issus de transferts d'embryons rapporte le nombre de ponctions et de 1 sur 5 en gros.
Ok. Et on en rembourse 4. Et les femmes de 43 ans et plus, elles font quoi ? Elles prient Saint-Esprit de venir les féconder ?
C'est à peu près ça.
Dis, je t'embête encore avec mes questions à la con. Tu disais au début que tu souhaitais la prise en charge maximale des plus vulnérables et que c'est à ça qu'on reconnaît une société évoluée. Ou un truc comme ça.
Je maintiens, je repense à la vanne de Coluche. Dieu a dit, il y aura des hommes blancs, il y aura des hommes noirs, il y aura des hommes grands, il y aura des hommes petits, il y aura des hommes beaux, il y aura des hommes moches, et tous seront égaux, mais ça sera pas facile. Et puis il a ajouté, il y en a même qui seront noirs, petits et moches, et pour eux ça sera très dur.
Alors, on a causé des femmes, des filles, des étrangers, des sans-papiers, des maorais. Il y a d'autres catégories de gens qui sont exposés ?
Si tu poses la question, c'est que tu as une idée derrière la tête.
Aux gens qui se droguent.
Ah ouais.
Imagine que je sois dépendante à une substance.
Et ben on va en parler au chapitre 11 qui s'appelle les autres dépendances.